Bonjour à tous et merci d'être là malgré la faim. Je m'appelle Kevin Autens. Je suis un développeur pour la communauté KDE depuis plus de 10 ans. Et professionnellement, je travaille pour une entreprise qui s'appelle KDAB. Et donc, on fait du service, conseil, formation autour de Qt. Et donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est donc la question que j'ai ici. Donc, à quand le meilleur ouvrier libriste de France ? Donc, il peut paraître une question un peu farfelue initialement. Mais on va prendre le temps de voir comment j'en suis arrivé à me poser cette question-là. Et notamment, je vais démarrer un peu avec des mauvaises nouvelles, mais je vous rassure, ça va s'améliorer après. Donc ce qui m'a commencé à me poser des questions, c'était finalement quelles sont les promesses que l'on fait aux gens quand on parle logiciel libre et open source, notamment quand on en fait la promotion. En général, ce qu'on annonce aux utilisateurs, c'est que vous allez avoir plus de qualité, vous allez avoir plus de sécurité, parce que vous savez, tout le monde peut voir le code, d'accord ? Donc on a de la revue de code, et donc forcément, on trouve plus facilement les bugs. Je pense qu'on a eu quelques exemples cette année qui prouvent que ce n'est pas toujours le cas. Un autre argument qui souvent est donné, c'est oui, on va pouvoir avoir plus de marge financière quand on fait des entreprises, parce qu'on va pouvoir utiliser le travail gratuit ou semi-gratuit de la communauté et se reposer un peu là-dessus. Et puis l'indépendance de l'utilisateur, c'est un peu les trois gros arguments qu'on retrouve. Et donc c'est un peu les trois grosses promesses qu'on fait aux gens, et c'est un peu des promesses, on en brise quand même une partie, parce qu'en général, au niveau de la qualité, c'est pas toujours assuré. Au niveau simplement de la quantité de fonctionnalités, c'est pas toujours assuré non plus. En général, on a un peu moins de fonctionnalités que certains équivalents. Si on prend des choses comme l'édition vidéo, on arrive à rattraper, mais on a souvent un retard à l'allumage qui fait qu'on démarre simplement de plus loin. Et puis aussi, si la qualité ou la sécurité n'est pas complètement au rendez-vous, ça veut dire qu'il faut avoir les compétences techniques ou l'argent pour pouvoir trouver quelqu'un pour corriger. Et donc ça, c'est pas forcément acquis. Et souvent, c'est globalement du logiciel qui est de faible qualité. Alors, je dis pas que le logiciel propriétaire, lui, est de top qualité. C'est souvent du logiciel de faible qualité aussi, d'accord. C'est juste que de ce côté-là, on est un peu sur un pied d'égalité. C'est globalement assez faible. Pour ce qui est du côté collaboratif, il y a des gens qui sont intéressés à aller regarder, à faire des stats sur très largement sur tous les projets qu'il peut y avoir. Et en fait, le nombre médian de contributeurs, c'est un ou deux. C'est fortement collaboratif. Alors on a des exceptions, hein, mais globalement, ça reste quand même assez faible. Et pour ce qui est qu'il y avait un aspect plus de marge, tout ça, business, ce qu'on constate, c'est que c'est pas foncièrement mieux, c'est pas foncièrement moins bien. En général, par rapport à des entreprises qui sont plutôt sur un modèle privateur, on a des valuations qui sont du même ordre, quoi. C'est en tout cas comparable. Donc on peut se poser la question, mais d'où ça vient ça ? Alors, donc il y a une explication potentielle et qui peut nous amener à une solution potentielle. On promet des choses et puis ensuite on brise ses promesses. C'est de se dire que cet argumentaire que j'ai présenté initialement, qui est celui qui est un peu le plus répandu, c'est un peu l'argumentaire open source. Là où la Free Software Foundation, elle s'intéresse plus aux libertés de l'utilisateur, et pour eux c'est ça l'essentiel, on se concentre là-dessus. L'Open Source Institute, lui, il fait la promotion de la méthode open source. Donc sur la façon de travailler, et parce que vous utilisez cette façon de travailler-là, vous allez être riche, vous allez avoir de la meilleure qualité, ce genre de choses-là. Et ce qu'on constate, c'est que c'est pas complètement vrai. Le constat à ce stade, c'est un peu de se dire, ok, cette promotion-là, ça vient de l'open source, et c'est ça qui nous pousse à faire un peu des mauvaises promesses. Donc peut-être si on change le message, simplement, au moins ça évite de faire des fausses promesses. Alors oui, ça pourrait éviter de faire des fausses promesses, mais il faut faire attention à ne pas simplement faire son libriste radical de base, que j'ai tendance à être, et de simplement dire « oui, c'est la faute de ceux qui font la promotion type open source » et puis balancer l'eau et le bébé avec, quoi. Ça n'explique pas tout, d'accord ? Parce que finalement, cette erreur, entre guillemets, de promotion, ça nous permet de détecter les problèmes. Mais ces promesses brisées, ça nous permet de voir qu'il y avait quand même un problème qui était là. Donc on peut se poser la question de pourquoi ces problèmes-là. Parce que si on a des problèmes dans ce que l'on produit, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de la part de la communauté, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de la part des contributeurs, et que du coup ça vient un peu de leur comportement, et donc c'est probablement culturel. Et donc on peut se poser la question de quelles sont les causes sous-jacentes dans cette culture qui génère ça. Alors, à mon avis, une des premières causes, c'est ce qu'on appelle la culture hacker. Donc la plupart des contributeurs, ils se voient héritiers de cette culture-là. J'en fais partie complètement. Pour moi, je me vois héritier de cette culture hacker. Toutefois, si on s'intéresse au terme de hacker, même historiquement, ça a quand même une définition relativement large. Ce que j'ai dans l'idée quand je parle de hacker, c'est plutôt des gens qui se mettent dans une situation qui est assez excellente pour l'apprentissage. Cette culture-là, ça permet de faire émerger des gens qui sont pointus techniquement, d'accord ? Ils ont une certaine soif de connaissances, ils aiment voir ce qui se passe derrière le rideau, d'accord ? D'aller creuser et voir comment les choses sont faites, et donc voir l'intérieur des technologies. Et en plus de ça, dans le cas du logiciel libre, ils ont ce sentiment un peu d'accomplissement parce qu'ils font du logiciel libre, d'accord ? Donc ils ont un sentiment d'accomplissement par la cause, la cause du logiciel libre derrière. Donc ça, jusque-là, c'est que du très positif. Toutefois, c'est aussi une culture avec des gens qui sont assez joueurs, d'accord ? Et parfois limite agressif, donc on pourra pointer sur certaines mailing lists de projets connus où ça peut être assez... il peut y avoir quelques frictions, on va dire. Et du coup, il y a aussi le pendant de se dire, ouais, on a des gens qui sont très pointus techniquement, et s'ils en sont entre guillemets trop conscients, ça peut aller vers des délires égotistes, j'ai de toute façon toujours raison, ce qui peut poser des problèmes. L'autre type de problème qu'il y a avec cette culture, c'est que ouais, on a des gens qui du coup sont très pointus, ils vont être intelligents, toutefois ils aiment bien aller au plus rapide. Ils veulent déjà passer au prochain jouet, d'accord ? Ils veulent aller déjà hacker le prochain truc. C'est un peu une limitation, c'est là où on a un plateau, en fait, parce que c'est là où on commence en fait à stagner techniquement, d'accord ? On démarre très très fort parce qu'on a cette culture hacker derrière nous. Puis à un moment donné, comme on passe notre temps à passer, on veut aller jouer avec le prochain truc, on n'est plus en situation d'apprentissage réellement. Et donc si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, clairement, j'étais là, j'étais à ce stade-là. Donc on prend plus le temps d'apprendre, et puis si on rentre en plus à se dire, à être fier de ses hacks, d'accord, parce que c'est un peu le côté où on va vite, c'est problématique, d'accord. Il y a des gens qui ont une fierté de dire, ah là j'ai fait un truc super malin, oui d'accord, c'est super malin, c'est super moche, c'est super fragile, dans 6 mois c'est cassé, quoi, mais ça marche, quoi, sur le moment. Et du coup, la technique pour la technique, c'est aussi assez stérile parce que derrière, on a quand même des utilisateurs. Donc, si c'est juste pour se faire plaisir techniquement, pour le côté de la cause et propager au niveau du logiciel libre, c'est pas forcément productif. Alors, il y a d'autres raisons liées à ça. Donc, c'est le côté, voilà, on se dit, ouais, on démarre avec scratch your own itch. Donc, on gratte là où ça nous démange. Donc ça c'est bien pour l'idée initiale quand on démarre un projet, mais encore une fois ça a tendance à être un peu auto-centré, d'accord, c'est mon besoin à moi, j'ai démarré pour mon besoin à moi, je fais un logiciel pour moi. Du coup la base utilisateur elle est où, c'est quoi le besoin de ces utilisateurs là, ça peut être vite ignoré, et si on est vraiment auto-centré comme ça, au final on n'a pas de réelle vision produit. Donc ça peut être aussi une explication pour la faible qualité. Et après, on en a des assez sympas, donc comme on est une communauté de gens très sympathiques, on est très très bon pour s'auto-exploiter, en fait. Donc c'est pas quand il y a des gens extérieurs qui nous poussent à essayer de nous pressurer, mais on a plein de gens motivés. On a plein de gens, non seulement ils sont motivés, mais en plus ils ont des principes, parce qu'ils sont là pour le logiciel libre. Et donc quand on est motivé et qu'on a des principes et on veut faire avancer quelque chose, bah on a tendance à pas savoir s'arrêter. Et quand on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas dire non, on a une certaine myopie sur ce qu'il y a réellement à faire, donc on est le hamster dans sa roue, d'accord, on court, et on ne sait pas exactement où on va. Et donc dans les pires cas, c'est le burn-out, d'accord. Donc des cas de burn-out de contributeurs, c'est, on n'en parle pas forcément largement dans la communauté, mais c'est des choses qui se voient, okay. C'est pas forcément très très sain, et on peut se dire qu'avant qu'ils arrivent au burn-out, ils ont probablement été contre-productifs sur leur projet. Donc, c'est pas une bonne chose à conserver. Dans le même ordre d'idée de ne pas savoir dire non, il y a un peu le côté trop dispersé, donc c'était un peu ce que je mentionnais, je veux aller au prochain jouet déjà, donc on a des gens qui ont des comportements un peu papillons, donc ils vont d'un projet à un autre, donc ils potentiellement déstabilisent un peu, et ils ne vont pas nécessairement en profondeur à faire les choses. Et donc ça peut générer des frictions, ça peut générer des problèmes de qualité. Ça va, là, je vous ai bien tué le moral. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on produit ? Alors, si on se dit, OK, on a tous ces problèmes-là, bon, on peut commencer à avoir quelques raisons culturelles sur ces problèmes-là, donc on commence à voir un peu ça. Mais finalement, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait correctement ? Alors, oui, je vous rassure, il y a quand même des choses qu'on fait correctement, donc ça va bien se passer, on ne va pas tous mourir. Et donc, notamment, j'aurais trouvé une bonne liste de ces choses-là dans une présentation de Benjamin McCoyle, donc qui fait pas mal de promotions pour la FSF. Et donc, c'était intéressant pour moi quand je suis tombé sur sa présentation, parce qu'il arrive à des conclusions un peu similaires, mais il arrive d'un angle différent. Lui, il n'est pas technique. Il est plus concentré sur justement la promotion du logiciel libre. Comment on fait la promotion du logiciel libre ? Et donc, il avait identifié un peu les problèmes avec la façon dont on en parle de manière open source et comment on pourrait faire les choses différemment. Et donc, pour faire les choses différemment au niveau promotion, il a identifié des avantages qui étaient intrinsèques à faire du logiciel libre. Donc, on en a plusieurs. Donc, le premier, c'est que les logiciels libres, ils sont par nature résistants aux antifonctionnalités. Alors, les antifonctionnalités, ce n'est pas des fonctionnalités qui sont là en trop, qui sont inutiles. Hein. C'est des fonctionnalités qui font des choses dont vous ne voudriez pas. D'accord ? Elles sont tellement nulles, vous serez prêt à payer pour qu'on les enlève du logiciel. Okay ? C'est des fonctionnalités à valeur négative. D'accord ? Je donne de l'argent pour qu'on me les enlève. Donc on voit assez bien ce que ça peut être. Hein, si je vous parle de DRM, d'accord, c'est ce genre de fonctionnalité-là. Hein, on est prêt à payer pour retirer les DRM pour pouvoir faire ce qu'on veut avec son ordinateur. Bordel. D'accord ? C'est vraiment cette idée-là. C'est aussi l'idée, par exemple, avec Windows, avec les éditions, où c'est la même base de code, d'accord, mais c'est juste qu'ils ont décidé de faire des éditions et qu'il y en a une où vous n'avez pas le droit de changer le fond d'écran. Alors, ils ont écrit du code pour empêcher de changer le fond d'écran, quoi. Hein, juste pour pouvoir le compiler, pour avoir cette édition-là. Donc ça, c'est des choses, dans le logiciel libre, ça ne peut pas exister à long terme. D'accord, parce qu'on a accès au code, donc forcément, à un moment donné, le gars, il en a marre de ne pas pouvoir changer son fond d'écran, il va rajouter ce qui manque. Quoi. Au pire, il fera un fork, mais c'est des choses qui ne vont pas rester là. Donc, logiciel libre, hein, résistant aux antifonctionnalités. Dans le même ordre d'idée, résistant aux verrous. Parce que du coup, on est réellement indépendant d'un individu ou d'un éditeur. D'accord, donc ça, on voit bien, hein, c'est parce qu'on a le droit au fork. Donc, on va pouvoir récupérer le code et puis le prendre dans une autre direction. Donc, on n'est pas verrouillé par quelqu'un. Après, il y a des choses, donc ça, c'est relativement connu. Après, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, parce que ce n'était pas forcément connu. C'est le côté, les échecs sont peu coûteux. Oui, parce que pour démarrer un projet, je ne suis pas obligé de créer une entreprise. D'accord. Je ne suis pas obligé de mettre en place une organisation, une association. Je démarre, je fais un peu de code ou j'ouvre un wiki si je fais un truc qui est plus centré sur la culture. Et voilà, j'essaye. Okay. Et puis, il y a plein d'autres gens comme nous qui vont faire ça, ils vont essayer. Ce qui veut dire que tous ces gens-là, parallèlement, ils testent plein de solutions potentielles sur le même problème. Ce qui veut dire que globalement, on explore plus largement l'espace du problème. Et donc, on a plus de chances de faire émerger quelque chose qui est optimal pour ça. Et donc un bon exemple pour ça, c'est par exemple, on se gargarise tous de Wikipédia, mais en fait, des encyclopédies libres sous forme de wiki, avant Wikipédia, il y en a eu 8. D'accord ? Si Wikipédia, c'est un succès, c'est parce qu'il y en a eu 8 qui se sont cassés la gueule avant. Okay ? Donc c'est nécessaire d'avoir aussi ce genre de choses-là, hein, d'avoir un échec qui est peu coûteux, pour pouvoir à un moment donné avoir quelque chose qui lui va rebondir et va se lancer. Dans le même ordre d'idée, le succès, il est peu coûteux aussi. Parce que j'ai pas besoin de faire de l'argent pour considérer que c'est un succès. D'accord ? Si la définition que j'ai, moi, de mon projet, c'est juste je prends du plaisir à faire des choses qui servent à des utilisateurs, mes utilisateurs, ils sont contents, je suis pas obligé nécessairement de faire de l'argent, derrière. Je peux simplement me satisfaire de ce truc-là. Ça, c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est un peu nouveau avec le logiciel libre, hein, c'est on découple l'économie de l'ingénierie. Okay ? Donc, on a d'un côté l'économie, donc on peut décider de faire de l'argent ou pas, et puis de l'autre côté l'ingénierie. On peut très bien définir le succès comme étant uniquement basé sur l'ingénierie si on a envie. Et, alors je sais que tout à l'heure j'ai parlé du nombre médian qui était assez faible, ça peut amener de grandes collaborations. Donc, ces collaborations intercommunautés, ça arrive parfois. D'accord ? Il faut juste pas supposer que, sous prétexte que j'ai fait sous forme de logiciel libre, ça va apparaître magiquement, parce que j'ai des petites fées qui vont toucher mon projet, parce que c'est la bonne licence et que d'un seul coup, je vais avoir plein de gens. Non. Ça peut arriver, d'accord ? Quand elles arrivent, par contre, on obtient des résultats grandioses. Okay ? On va pouvoir s'attaquer pratiquement à n'importe quel type de marché quand on a quelque chose comme ça qui apparaît, parce que ça peut apparaître un peu n'importe où. Des choses comme les distributions type Debian, ça ne peut pas exister sans ces grandes collaborations. D'accord ? Des choses comme Wikipédia, ça ne peut pas exister sans ces grandes collaborations. C'est des choses qui ne peuvent pas exister sur des modèles privateurs. C'est juste pas possible à faire. Et bien entendu, ça reste du logiciel libre, d'accord? Donc, ce qu'on va garantir aussi, hein, et donc l'avantage qu'on va avoir du fait que c'est du logiciel libre, c'est la liberté de l'utilisateur. Et c'est celle-là qui est importante, c'est pas la liberté du code, hein, on s'en fout la liberté du code. Ce qui est important, c'est la liberté de l'utilisateur qu'on lui donne parce que la licence lui permet d'avoir cette liberté. Alors c'est important parce que la question qui contrôle la technologie, c'est une question qui est éminemment politique, et en ce sens-là, le logiciel libre, c'est un mouvement politique. D'accord ? Et le fait qu'on opère sur des principes, on opère sur ces principes pour garantir cette liberté, cette liberté-là, et c'est pour ça qu'on voit... c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu un retard à l'allumage, hein, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais on voit du cloud qui apparaît, propriétaire, et puis on va avoir des gens qui vont lancer des projets pour créer une alternative à ça, pour s'assurer que les utilisateurs vont pouvoir rester libres, pour s'assurer qu'il y ait cette bulle d'opportunité qui permet à des utilisateurs de garantir leur liberté. Donc ça, c'est plein de bonnes nouvelles, d'accord, contrairement au constat un peu plus sombre que je faisais initialement. Et c'est plein de bonnes nouvelles, et ces propositions ont l'avantage de s'appuyer, hein, sur les avantages naturels du logiciel libre. Là où je suis resté un peu insatisfait, c'est que, comme il vient de l'angle plus promotion, sa conclusion, c'est de dire, voilà, problème résolu, d'accord, on change la promotion, au lieu de la faire sur les critères que je mentionnais initialement, où ça marche pas parce qu'on fait des fausses promesses, on va le faire sur les avantages inhérents du logiciel libre, et tout ira bien. Donc c'est en gros, hein, on change la promotion, mais on maintient sinon globalement statu quo. Ça, j'ai du mal à me satisfaire de ce genre de choses-là, et donc je me pose la question, oui, d'accord, c'est sympa au moins pour la promotion, ça évite qu'on dise des bêtises, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin que ça? Donc, en particulier, on veut aller plus loin que ça, si on veut avoir plus de logiciels libres entre les mains des utilisateurs, si on veut avoir plus d'entreprises qui fonctionnent bien avec du logiciel libre, etc. Et ça, c'est un choix de société, d'accord ? Donc si on s'en tient à juste changer la promotion, bon, ben voilà, on arrête de mentir, mais on ne change pas la société. Si on essaye d'aller au-delà de ce statu quo, on peut faire des choses. Donc ça pose la question de finalement, ok, si on corrige la promotion, mais quoi corriger à côté ? Alors on a ces promesses brisées, ok ? Ces promesses brisées, ça nous a permis ensuite d'aller regarder, ok, pourquoi est-ce qu'on brise ces promesses-là ? Quels sont les problèmes sous-jacents ? Et donc du coup, maintenant, on est dans une bonne position pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'on a une idée des causes sous-jacentes, on a une idée des symptômes qu'on constate, et on va pouvoir les corriger. Et on a plusieurs opportunités pour aller corriger. Alors moi, dans ce genre de situation-là, c'est difficile de se dire, ah, bon, on va tout faire en même temps, parce que généralement, quand on fait tout en même temps, on ne fait rien. Donc c'est plutôt, on va se concentrer sur un truc. On va choisir une bataille, on choisit sagement, d'accord ? Parce qu'on se dit, voilà, il y a plusieurs batailles potentielles, et on choisit celle qui, si on s'y attaque, ça va nous permettre de créer un cercle vertueux, et puis potentiellement d'aller régler le reste, hein, tant qu'on y est. Donc on va choisir cette bataille-là. De mon point de vue, donc sur le côté plus ingénierie, parce que sur le côté promotion, on voit bien comment faire, mais sur le côté travail et comment on produit, à mon avis, la bataille, c'est la qualité. D'accord ? Pourquoi la qualité ? C'est parce que, faut pas se leurrer, hein, au niveau de la masse d'utilisateurs potentiels, on en a la liberté individuelle, ça leur paraît compliqué à bien appréhender, pourquoi à travers le logiciel ? Donc il y en a, ils s'en foutent complètement, d'accord ? Donc pour toucher ceux-là, à un moment donné, il faut juste leur donner des logiciels qu'ils aient envie d'utiliser. Et comme je disais tout à l'heure, les logiciels privateurs, eux, ils sont généralement de faible qualité. Donc si on est de meilleure qualité que les logiciels privateurs, ça nous fait un argument pour se différencier, un vrai argument pour se différencier pour ces gens-là qui ne sont pas forcément intéressés par la qualité, par la liberté, pardon. En plus de ça, si on s'intéresse à la qualité, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des logiciels qui sont plus faciles à modifier. S'ils sont plus faciles à modifier et donc répondre à des conditions changeantes, ça veut dire qu'on va pouvoir plus coller à notre base d'utilisateurs à mesure qu'elle est en train d'évoluer. Si on colle plus à la base utilisateur, à ses besoins, ils seront plus satisfaits. S'ils sont plus satisfaits, ben, ils vont rester. D'accord ? Et donc ça va créer, hein, ce cercle vertueux, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même plusieurs problèmes, qui étaient la qualité d'un côté, et puis d'un autre côté, des fois, on ignore un peu l'utilisateur. Donc là, ça nous permet au moins d'attaquer ces deux choses-là. Alors pour ce qui est de la qualité, hein, comme je mentionnais, hein, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le logiciel propriétaire. Donc l'idée du vite et sale, d'accord, c'est assez répandu, hein, en fait, dans l'ingénierie logicielle en général. Donc c'est pour ça qu'on voit même des gens. Donc ça, c'est une citation de Bjarn Stroustrup, donc qui est l'inventeur du C++, et donc il dit qu'on devrait viser, hein, un plus haut degré de professionnalisme dans le développement logiciel. Lui, c'est pas un chantre du logiciel libre, d'accord. Globalement, c'est ce qu'il constate sur tout type de logiciel. Donc on se dit, bon, ok, alors peut-être qu'on devrait dépasser simplement le côté hacker et la culture hacker et se concentrer sur plus de professionnalisme. Donc passer de, voilà, je suis simplement un hacker, mais en plus de ça, je suis professionnel. Alors le professionnalisme, ça pose la question de, ouais, d'accord, alors professionnalisme, mais où il est le plaisir de construire si je suis uniquement un professionnel strict avec une tronche un peu... je suis un peu la gueule. Comment on garde ce sentiment d'accomplissement hein, si on se dit, voilà, je vais être très professionnel, je vais faire que des choses bien utilitaristes, c'est pas forcément toujours plaisant. Et donc peut-être que la question, c'est de se dire, ok, il y a peut-être plusieurs types de professionnels, alors quel type de professionnel finalement m'intéresse là-dedans, le gars avec la cravate ou d'autres choses potentiellement intéressantes. Ma conclusion, c'est que c'est plutôt l'artisanat qu'il faudrait regarder, parce que ce sont des professionnels hein, dans l'artisanat. Et on peut se dire, ah quoi, ces gens avec les mains sales, ouh. Alors, ces gens avec les mains sales, déjà, c'est pas des abrutis. Et en plus de ça, c'est parfois la vision qu'on peut en avoir, mais pour en avoir dans la famille, c'est aussi des gens qui ont une culture, c'est des gens qui ont une attitude, c'est des gens qui ont un certain idéal sur la façon dont on travaille. D'accord ? Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est pas uniquement le type de travail qu'ils font, c'est aussi toute cette attitude-là. Et franchement, on pourrait en prendre de la graine. Parce que si on a un artisan, d'accord, et si on va même chercher des choses assez traditionnelles, hein, dans la documentation, ce qu'on arrive à retrouver, c'est des gens qui ont un sentiment d'accomplissement parce qu'ils remplissent un service pour leur communauté quand ils font une chaise, d'accord, c'est quelque chose qui a une utilité, et c'est pour servir à la communauté, c'est pas pour leur bien personnel initialement. Et c'est des gens qui cherchent à avoir une certaine précision, d'accord, dans le geste, dans l'acte créateur. Hein, il y a une précision, il y a une recherche de cette précision et de cette qualité à chaque fois, à chaque étape. C'est aussi des choses où on a un apprentissage permanent, hein, parce que ce qu'on appelle un maître artisan, hein, c'est quelqu'un qui estime qu'il doit apprendre aussi de ses débutants. D'accord. Donc il se met jamais comme, voilà, moi je suis celui qui sait, maintenant j'ai plus rien à apprendre. Non, il est toujours en train d'apprendre de quelqu'un. Donc il y a cette volonté hein, d'apprentissage permanent tout au long de la carrière. Et donc il y a aussi ce côté hein, respect des anciens, parce que les apprentis ils viennent chez un maître artisan pour bénéficier de son expérience. Donc il y a toute cette dynamique là, et ça crée des choses où l'objet, hein, donc c'est pas de l'art parce que c'est un objet qui doit avoir une fonction derrière, hein, c'est pas uniquement pour être beau, juste pour être beau. Hein, c'est non seulement ça a une fonction, mais en plus c'est qualitatif. Non seulement ça a une fonction, mais c'est fait avec hein, le résultat a une certaine beauté, une certaine élégance, d'accord, et c'est fait de manière propre et précise hein, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc même les parties que vous voyez pas. Et en ingénierie logicielle, il y a des gens qui sont inspirés de cette idée-là et donc ils ont lancé un mouvement donc, qui s'appelle Software Craftsmanship et donc ils ont fait un manifeste. Et la première phrase de ce manifeste, hein, c'est que en tant que donc artisan logiciel, enfin en tout cas volontaire, hein, enfin aspiring, on veut donc monter la barre hein, du développement logiciel professionnel, donc on tombe bien sur le professionnalisme, en pratiquant et en aidant les autres à apprendre. D'accord, donc c'est pas uniquement je fais les choses juste pour moi, pour faire des trucs techniques et je me fais plaisir, c'est j'aide aussi les autres à apprendre. Donc il y a une recherche à aller vers l'autre pour ce genre de choses. Ce qui veut dire que quelque part, on a collectivement tous besoin de s'éduquer, d'accord, par rapport à ça, donc il va y avoir un effort à faire là-dessus. Et ça, si on rentre dans ce genre de choses-là, hein, c'est dans une idée voilà, justement d'avoir une meilleure qualité globale, c'est d'avoir, de viser une certaine beauté et élégance dans les choses qu'on réalise. Donc il y a tout ce mouvement-là qui existe. Alors je n'ai pas pour but ici de vous faire un catalogue, mais c'est des gens qui réfléchissent beaucoup à ce genre de choses-là. Donc en fait, ils ont tout un tas de pratiques sur la façon d'écrire du logiciel, ou alors ça peut même être de la contribution plus générale hein, pour le design des interfaces. Ça peut être, enfin, il y a tout un tas d'aspects qui sont touchés. Il y a tout un catalogue de pratiques. Et ces gens-là, ils sont en train exactement de chercher à résoudre les problèmes qu'on a mentionnés initialement. D'accord ? Donc on a tout intérêt à s'en inspirer et d'aller piquer dans les pratiques pour faire mieux, simplement. Et donc apprendre ces choses-là. L'autre avantage que ça a, en fait, de s'intéresser à ça, c'est que c'est aussi un recentrage sur le développeur ou plus généralement sur les contributeurs, hein, dans le cas des projets, donc on peut avoir aussi des designers, etc. Et se concentrer sur ce genre de choses-là, si on fait mieux, enfin pour des gens qui ont un job à côté, j'espère que c'est la plupart d'entre vous, c'est aussi redorer notre blason dans les organisations, d'accord ? Parce que c'est plus l'informaticien où on vient lui taper dessus parce qu'il y a encore un bug, d'accord ? Hein, si on cherche à faire les choses bien aussi dans ce domaine-là. Donc on n'est plus uniquement là pour subir les règles du management sur la façon de travailler, d'accord ? C'est on reprend la main sur la façon dont on fait le travail. Donc ça veut dire que ça élimine à terme hein, en fait le command and control, d'accord ? Donc j'ai quelque chose d'hyper hiérarchique, il y a une décision qui part d'en haut et puis... Et à un moment donné, ça arrive sur l'opérationnel et lui, il doit faire, quoi. Il ne se pose pas trop de questions. Ça permet de couper en fait, à tout ça et d'aller hein, vers plus de la notion où on fait de la co-création entre ceux qui mettent les mains dans le cambouis et puis directement le client ou l'utilisateur. Un peu comme les artisans où vous voyez qu'ils ont les mains sales. D'accord, c'est un peu le même genre d'idée. Alors pour favoriser ce genre de choses-là, donc déjà bon, on peut faire hein, effectivement en parler et puis dire bah voilà telle pratique ça serait intéressant, échanger sur ce genre de choses-là, hein, le côté où on apprend tous ensemble. Après il y a à mon sens des choses pour favoriser l'émergence de ce genre de comportement. Alors il y a une initiative intéressante qui a été lancée il y a quelques jours par la Free Software Foundation qui s'appelle donc les Free Software Awards. Et donc l'idée, hein, c'est on peut nommer des gens de la communauté à la FSF et dire « Ah, lui, il a fait un truc vachement bien ». Et après, les gens ils vont pouvoir voter dessus et donc il y aura les héros, hein, parce qu'ils appellent ça les héros de la Free Software Foundation. Le problème que j'y vois, l'idée de base est bonne. Le problème que j'y vois, c'est comme c'est sur nomination, puis après avec un vote derrière, il y a un peu potentiellement un effet de clic, un bourrage d'urne, d'accord. Si on a un projet suffisamment gros, il nomme quelqu'un, bah, forcément il va tout emporter. Donc ça, c'est ce qui est un peu dommage. Du coup, quand on regarde en France, par contre, pour ce qui est de l'artisanat, on a quelque chose qui s'appelle, on a un concours qui s'appelle un des meilleurs ouvriers de France. Et c'est un système qui est spécifique à l'artisanat. C'est un concours qu'on a pour les artisans en France. Et l'idée, c'est sur une période longue, d'accord, on a un artisan, il décide de dire, bah voilà, ça fait suffisamment longtemps que j'ai appris, je pense que les gens pourraient apprendre de ce que je suis en train de faire et je veux donc pouvoir toucher plus largement. Et donc je vais réaliser un chef-d'œuvre sur une période longue. D'accord ? Et quand je réalise un chef-d'œuvre comme ça sur une période longue, on va avoir un jury qui va pouvoir venir et qui va regarder le travail, d'accord ? Donc c'est un jury avec des pairs reconnus de la communauté. Donc tout le problème après c'est de bootstrapper, hein, mais avec des pairs reconnus. Et ce jury va regarder voilà, comment les choses sont faites, est-ce que ça fait avancer la façon de travailler dans ce domaine-là en particulier, donc sur de la charpente ou autre. Et donc on pourrait se poser la question, finalement pourquoi on ne ferait pas la même chose pour des artisans logiciels ? Alors la limite que j'y vois, c'est que si on se dit ouais ok de l'artisanat logiciel mais des gens qui font du logiciel propriétaire, ça va être difficile de faire quelque chose comme ça, parce que si le gars il se dit ouais je suis en train de faire un chef-d'œuvre mais vous n'avez pas le droit de voir le code, puis vous n'avez pas le droit de voir l'historique, et bon ça va être un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'on peut l'amender, donc c'est comme ça qu'on revient un peu au titre de la présentation, c'est de dire ce qu'on pourrait faire, c'est avoir un concours, un des meilleurs ouvriers libristes de France, d'accord, parce que ça corrige. Hein, ça corrige les problèmes, parce que les artisans libristes, pour le coup, là, on a tout qui est accessible, hein, on a accès à l'historique du code source, hein, on peut voir les échanges par mail, hein, parce que c'est une activité de groupe, d'accord, donc on peut voir aussi comment ça se comporte, et ça pourrait permettre de faire ressortir des exemples à l'intérieur de la communauté sur ce type de sujet-là, et du coup de stimuler aussi l'apprentissage des contributeurs, parce que ça leur donne des exemples où ils peuvent s'inspirer, d'accord, donc c'est cet aspect-là. Et donc on peut espérer que via ça, on peut aussi faire émerger donc des projets, là pour le coup, parce que hein, ça change le comportement des contributeurs, donc on peut estimer que la nature des projets va changer aussi, et qu'on ait des projets de haute qualité. D'accord ? Donc on va terminer un peu sur une réflexion un peu intellectuelle. Donc on va imaginer hein, qu'on ait des produits de haute qualité disponibles, qui suivent un peu les principes de l'artisanat logiciel, d'accord, donc qui vont piocher dans les pratiques, hein, les principes dont j'ai pas fait le catalogue mais que je mentionnais tout à l'heure. Et donc ce qu'on va obtenir, si c'est de la haute qualité, hein, ce que j'entends par là, c'est très peu de défauts, d'accord, ou du moins s'il y a un défaut, il va pas apparaître tous les 6 mois, d'accord, hein, on le corrige une bonne fois pour toutes, sa sale tête revient pas régulièrement. Et ça veut aussi dire hein, non seulement donc peu de défauts ou surtout peu de régression, mais quelque chose qui va être facile à changer pour coller aux besoins de l'utilisateur hein, et chercher à satisfaire les utilisateurs. Donc on imagine très fort là, des projets comme ça, des produits comme ça, et qui seraient aussi en plus des logiciels libres. Donc non seulement ils ont très peu de défauts, on peut les changer suffisamment facilement pour coller aux besoins des utilisateurs, mais en plus on est sûr qu'ils n'auront pas d'anti-fonctionnalité, on est sûr qu'il n'y aura pas de verrou envers un éditeur, et en plus on est sûr qu'ils respectent la liberté de l'utilisateur. Franchement, si j'ai un produit avec toutes ces caractéristiques-là entre les mains, moi j'ai du mal à voir comment ça ne peut pas conquérir le monde, d'accord, un truc comme ça. Hein, j'ai quelque chose qui est de haute qualité, en plus ça garantit mes libertés, pas de verrou, rien, c'est nickel. Ça va forcément se propager parce que les gens qui sont intéressés par le logiciel libre et leur liberté individuelle, ils vont être attirés par ces aspects-là, qui sont nature normale du logiciel libre. Et puis ceux qui n'ont pas forcément ce genre de principe-là, ou pour qui c'est un peu nouveau, c'est encore un peu flou, eux ils seront attirés par le côté ça marche bien, c'est beau, c'est bien fait. Si on a ça, s'ils sont faciles à changer, ça veut dire aussi que pour attirer plus de collaboration, ça nous met dans une meilleure position pour décoller du nombre médian de contributeurs à 1 ou 2. D'accord ? Parce que c'est facile à les modifier, donc c'est facile pour des gens venir intervenir dessus pour l'adapter pour des besoins supplémentaires. Et du coup, si j'ai un produit comme ça avec énormément de demandes et énormément de collaboration derrière, si je veux le monétiser, que j'ai une entreprise derrière, ça facilite aussi les choses, d'accord ? Donc ça nous permet de retomber un peu sur nos pattes avec les promesses initiales de l'open source. Si on complète un peu, on retrouve ces aspects-là où, oui, effectivement, on va avoir la collaboration, oui, effectivement, ça peut générer du business, etc. Et alors, ça pose la question, est-ce que c'est difficile ? Parce que, c'est quand même des gens, ils réfléchissent à des pratiques, donc il y a plein de pratiques, il va falloir les apprendre. Oui, forcément, donc ça va être un peu difficile, d'accord ? C'est pas non plus, c'est pas comme magique comme ça. On va avoir plein de choses à apprendre, on va avoir des efforts à faire, ça, jusque-là c'est normal. La rigueur, c'est généralement quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Donc ça nécessite d'avoir un peu de discipline pour forcer la main au début. Mais si après vous arrivez à transformer ça en habitude, cette discipline vous n'en avez plus besoin, d'accord ? Cette force de volonté dont vous auriez besoin pour le mettre en place, à partir du moment où j'ai une habitude, je travaille de manière habituelle, ça devient de plus en plus naturel, je ne me pose pas la question. Donc c'est effectivement un peu difficile au début, mais si on passe ce cap-là, on obtient quelque chose quand même qui est plaisant et vertueux. Alors le plaisant, c'est parce que vous n'allez jamais cesser d'apprendre. D'accord ? Hein, c'est dans cette idée, l'artisanat, ce que je disais, même un maître artisan, il considère qu'il est toujours en apprentissage. D'accord ? Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre dans un domaine. On repousse toujours un peu les limites. En plus de ça, la plupart des pratiques telles qu'elles sont proposées dans ces communautés-là, c'est des choses qui, on travaille vraiment souvent, c'est on travaille par petits pas, ce qui donne des objectifs de court terme. Et donc ça donne un peu le même type de mécanique que ce qu'on peut avoir des fois dans des jeux, vous savez, en fait, pour être sûr que vous allez rester sur votre console à vous lobotomiser, ils vous mettent juste un petit but qui est proche, puis un autre petit but qui est proche, puis on va toujours du petit but au petit but jusqu'à arriver à la fin, d'accord ? Donc il y a un peu le même type de dynamique quand vous travaillez avec ce genre de pratique-là. Et vertueux, c'est pour deux raisons essentielles, c'est que des logiciels de faible qualité, c'est juste malsain. Des logiciels de faible qualité, si on est en système critique, ça tue. D'accord. Donc c'est plutôt des choses qu'on va chercher à éviter, et à éviter plus largement. Et en plus, si c'est de bonne qualité et que c'est du logiciel libre, ça permet de faire avancer la cause. D'accord. Donc c'est doublement vertueux dans ce genre de cas-là, parce que ça permet de mettre le logiciel libre sous un bon jour. Et donc du coup, arrivé à ça, on dit on n'a pas vraiment de raison de ne pas chercher à faire ce genre de choses-là. Et donc à mon avis, on devrait ensemble commencer à chercher donc les meilleurs ouvriers libristes et les montrer à la communauté. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vois quand même une faille.
Il y en a probablement.
C'est plutôt une question, voir comment tu vois ça. C'est-à-dire que dans les concours là, des meilleurs ouvriers de France, c'est un individu qui est primé. Tandis que là, quand on pense au logiciel libre, il y a tout cet aspect collaboratif, c'est-à-dire que le projet est rarement construit par une seule personne. Donc comment tu vois à ce niveau-là l'analogie, enfin ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse marcher dans ce cas-là, ouais.
C'est un aspect, je me suis posé un peu le même type de question. J'y vois deux échappatoires possibles. Je laisse suffisamment flou pour qu'après, si on veut inventer vraiment un concours comme ça, on puisse le structurer soit dans une direction, soit dans une autre. J'ai du mal à choisir entre les deux. Il y a deux façons de voir. C'est soit dans les critères d'évaluation du shader, on accepte le fait que le développement de logiciel, et en particulier quand c'est du logiciel libre, c'est jamais une activité solitaire. D'accord ? Donc c'est soit on monte ça pour que ça soit une équipe qui soit mise en avant, soit si on veut conserver l'aspect, c'est pour des personnes, il faut intégrer non seulement la technique, mais aussi les interactions avec les gens. C'est deux voies possibles pour réintégrer cette dimension-là. J'ai du mal à choisir entre les deux, donc je laisse ça ouvert. Mais, voilà.
Merci.
Oui, bonjour, je voulais intervenir. J'avais à peu près la même réflexion, à savoir que c'est vrai que dans l'image traditionnelle, l'artisan, le concours du meilleur ouvrier de France prime un individu. Voilà. Donc je me demande si il manque pas, un autre pan dans votre vision politique, c'est-à-dire d'une part effectivement primer le travail individuel avec les nuances que vous venez d'apporter. Mmh. Et d'autre part, la réflexion qui se dégage aujourd'hui autour d'une façon de garantir le travail collaboratif avec les licences à réciprocité. Il y a Dimitri Kleiner avec la PPL, la Peer Production License, tout ça. Mm-hmm. Bon, c'est encore à l'état larvaire, ouais. Mais il me semble que... votre approche est sans doute très bonne, mais je pense qu'en plus qu'on ne veut pas non plus inciter à une création sur une simple mise en avant d'un prix. Est-ce que ça répond aussi à votre idée du meilleur ouvrier libriste de France? Est-ce que ça aurait un écho dans la communauté libriste? J'en suis pas sûr.
Ah je suis pas sûr non plus. D'accord, je prédis pas le futur. Il y a pas une création demain d'un type de concours de ce type-là. Donc ouais, effectivement, c'est difficile à prédire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait gagner de l'attraction? Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est la FSF essaye. C'est pour ça que je mentionnais un peu les FSF Awards. Il y a un peu cette idée-là, mais avec le biais que je mentionnais de système de clics qui peut se mettre avec la façon dont ils l'ont structuré. Donc, je suspecte que ça pourrait avoir un écho dans la communauté, puisque clairement, il y a des choses qui commencent à apparaître ici et là. Après, plus globalement, est-ce que c'est suffisant ou pas? Alors, le type de licence que vous mentionnez, si vous pouvez me donner plus d'informations après, ça m'intéresse, parce que j'en ai pas encore trop entendu parler, donc ça m'intéresse clairement. Mais est-ce que c'est suffisant pour garantir que ça va donner une bonne direction? Je pense pas que ça soit suffisant, mais on est dans un tel état, entre guillemets, où il faut déjà avoir les premiers exemples pour avoir justement... donner une direction via l'exemple, c'est-à-dire ça c'est bien, donc ça donne déjà une première direction à avoir, plutôt que de mandater et de dire si vous voulez faire les choses bien, il faut faire comme ci, comme ça et comme ça. C'est très dogmatique, généralement les gens ils ont difficulté et plutôt la résistance sur ce genre de choses, mais mettre en avant des succès, ça aide plus à mon avis. J'espère que ça répond correctement à votre questionnement, mais...
Je pense qu'il y a des pistes à explorer en articulant votre vision,
oui,
avec,
oui,
d'autres agencements possibles.
Tout à fait, oui, ça, tout à fait. C'est pour ça que je dis, je ne pense pas que ce soit une réponse suffisante. Je pense que c'est une réponse nécessaire, au moins pour démarrer, mais ce ne sera pas suffisant. Ça, clairement, il faudra articuler avec d'autres choses, oui.
Et est-ce qu'il y aurait une somme à la clé pour ce prix? Enfin, je veux dire, parce que c'est quand même une motivation.
Je sais pas, on peut l'envisager. J'ai pas forcément dans l'idée d'avoir une somme derrière, mais parce que déjà c'est plaisant d'être mis en avant, et on a des choses où les gens ils sont déjà motivés simplement par faire les choses. Donc si en plus ils sont mis en avant, on peut supposer que ça aurait déjà un effet positif. Après, la motivation par l'argent, je ne suis pas forcément convaincu, pour être honnête. Mais...
Oui, donc à un moment, tu dis dans ta présentation, si on a des logiciels de bonne qualité d'une part et qui sont libres d'autre part, alors on va conquérir le monde. Je pense que c'est quand même déjà le cas dans un certain nombre de domaines. Il y a effectivement des domaines où c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais il y a quand même des domaines où c'est effectivement le cas. Tu mentionnais un moment le fait qu'on n'avait pas encore, par exemple, on a été en retard sur avoir un cloud libre, etc., qui libérait l'utilisateur. Oui, mais tout le cloud privé qui nous enferme aujourd'hui, avec quoi il tourne ? Il tourne avec du logiciel libre. Et donc, c'est quand même, je pense que toutes les entreprises qui ont choisi le logiciel à ce moment-là, elles l'ont aussi choisi pour partie, peut-être parce que c'était libre, parce qu'elles avaient le code pour le modifier, mais aussi parce que la base que ça leur offrait était déjà quand même de suffisamment bonne qualité. Il y a quand même des domaines.
Alors, c'est un bon point, effectivement, sur du code d'infrastructure. On a tendance à avoir des choses qui sont pas mal.
Tout à fait. Voilà,
on a aussi OpenSSL.
Tout à fait.
Mais d'accord. Après, qui a quand même été choisi de manière globale, etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement la qualité qui a fait que ça a été choisi.
Oui, c'est vrai. Mais quand même, voilà. Je pense que c'est quand même il y a tout un panel d'aspects, l'aspect
mais ça, coût, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas.
Je pense que c'est probablement ça a aussi été choisi parce qu'en termes de qualité, c'était pas forcément moins mauvais que ce qu'il y avait à côté en équivalent propriétaire, sans dire que c'était parfait. On n'a probablement pas atteint la qualité parfaite, mais relativement à ce qui peut se faire dans le monde propriétaire, sur ces domaines-là, j'ai l'impression quand même que, bon, OpenSSL, je ne sais pas si l'implémentation propriétaire était particulièrement meilleure et exempte.
On n'a aucun moyen de le savoir.
On n'a aucun moyen de le savoir, voilà. Donc c'est difficile de juger. Par contre, il y a un point qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'au début de ta présentation, tu identifies...
Ah, par contre, j'aimerais finir juste sur ce truc-là. Donc il y a l'aspect où effectivement, qualité, probablement, sur l'infrastructure, on a tendance à avoir des choses qui se propagent mieux. À mon sens, on a probablement des choses où effectivement, en moyenne, ça peut être de meilleure qualité. On a aussi des OpenSSL, c'est pour ça que je pointe. Le deuxième truc, c'est que ça reste des choses d'infrastructure. D'accord ? Donc, ce n'est pas des choses qui finissent dans les mains des utilisateurs. Moi, in fine, politiquement, ce qui m'intéresse, c'est que ça finisse entre les mains des utilisateurs. D'accord ? Et là, par contre, il y a de la marge.
On a quand même quelques exemples qui ont bien marché. Je ne sais pas, des utilisateurs lambda, il y en a quand même beaucoup qui installent VLC ou qui installent Firefox parce qu'à un moment, ils ont vu que ça marchait mieux à un instant T. Peut-être que ça a varié au cours du temps.
Un instant T, puis ça s'écrase.
Il y a quand même eu quelques exemples visibles, mais effectivement, sur le desktop, globalement, on est mauvais. On attend toujours l'année de Linux sur le desktop. Ça, c'est très clair. Ça fait 15 ans qu'on
l'a. Et c'est des choses où on aimerait avoir une pérennité parce que, comme tu le pointes, c'est justement c'est des choses, ça émerge pendant un temps et puis hop, ça s'écroule. Oui. Et c'est justement pour ça que le côté qualité, c'est pour gérer dans le temps, quoi. Et avoir des choses où ça marche parce qu'il y a un effet de mode pendant un temps, ça marche parce que c'est un effet de mode et puis ça passe. Si c'est quelque chose où on gère, où on va gérer plus dans le temps pour justement plus facilement coller aux utilisateurs, là, on va pouvoir espérer avoir des choses qui durent mieux.
C'est possible.
Je pense que dans le lot, Firefox, c'est probablement un des plus proches sur ce genre de choses-là, même s'il y a quand même des choses à en dire.
Oui, même si intrinsèquement, l'architecture interne n'est peut-être pas forcément...
Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a encore des choses à en dire, mais voilà, ça peut donner des pistes de réponse.
Et donc moi, effectivement, ce qui m'interpelle un petit peu dans ce que tu disais, que tu identifies très bien au début, c'est la tension qu'il y a entre le côté culture hacker qui un peu consiste à j'identifie un problème, je le résous, et une fois que j'ai atteint un degré de résolution du problème qui m'est acceptable,
ouais, c'est plus marrant,
ça,
quoi.
Ça marchouille, c'est bien, etc. Bon, ça merdoie un peu, c'est pas bien poliché, bon bah... faut que je le réécrive dans l'autre langage, ou faut que je change de bibliothèque.
Ou c'est plus drôle, je le laisse dans un coin.
Je prends un autre jeu. Voilà, ça, tout le monde le sait, et j'ai l'impression que dans les distros Linux, sur pas mal d'aspects, on est sans arrêt en train de changer de techno. On commence à arriver au moment où, ah ça y est, ça commence à stabiliser, ça commence à marcher, il ne reste plus que la petite dernière touche à faire. Oh mais non, on va tout réécrire, on recommence tout à partir de zéro, et tout repart. Et tous les petits polichages qu'on avait commencé à mettre, tout part à la poubelle. Donc il y a cette tension-là qui nous amène à cette tension entre ce côté où on a envie de tout recasser tout le temps parce que c'est ça qui est fun, et puis comment est-ce qu'on fait pour être motivé à avoir envie de mettre sa dernière couche de polish et de maintenir cette couche de polish progressivement. Je comprends pas très bien comment tu résous cette tension là. Est-ce qu'il faut changer la culture à cœur? Oui, mais comment? Parce que quand même le fun de faire des choses sur son temps libre le soir, il est aussi à tout casser, à réapprendre, à refaire, à expérimenter, et pas tellement à aller policher, à aller machiner bien propre tout ce qui traîne. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut financer ça? J'ai l'impression que tu disais juste, il suffit de changer l'état d'esprit des développeurs et ça va marcher. J'ai un peu des doutes. que ça puisse être le cas.
Alors,
comment est-ce qu'on résout cette tension qui existe et qui finalement, j'ai l'impression, un peu la source du problème?
Alors, de mon point de vue, c'est ça. C'est, si tu changes l'état d'esprit, ça va nécessairement changer le résultat que tu vas avoir derrière. D'accord? Donc, dans ce sens-là, tu as des doutes, moi j'en ai moins. Par contre, là où probablement on se rejoint, c'est que c'est pas facile de faire ce changement-là. Tu vois, c'est pas la même image. Mais si ce changement-là survient, d'accord, on peut espérer qu'il y ait ce genre de choses. Alors, pourquoi c'est pas facile? C'est justement parce qu'il y a cette montagne à passer, d'accord. Il y a le côté de justement, je passe pendant un temps, je suis ok sur la volonté, la discipline, et c'est pas forcément marrant pour arriver à mettre en place les pratiques qui font que voilà. Mon expérience personnelle, c'est que si tu passes ce cap-là, après, même si c'est un logiciel que tu as depuis un moment, etc., tu vas pouvoir le toucher pendant longtemps et toujours y trouver des trucs qui sont intéressants à faire à l'intérieur, et des choses à retoucher, c'est du polish. Parce que c'est dans la... Comment dire ? Tu grandis plus dans le... Je casse un truc, je mets des nouvelles choses. C'est tu grandis dans le sens où c'est toujours un peu plus beau et ça reste des activités qui sont plaisantes et marrantes à faire. Tu vois. Mais il faut passer ce cap-là. Au début, ça paraît aride, voilà. Et donc pour passer le cap, il n'y a pas 50 solutions. Il faut pratiquer. Pour que les gens y pratiquent, il faut qu'ils aient appris, que quelqu'un les ait aidés à mettre le pied à l'étrier. Pour qu'ils aient quelqu'un pour leur mettre le pied à l'étrier, il faut qu'ils aient déjà des gens où ils peuvent dire ah oui, eux, ils savent faire. Donc il faut bien démarrer d'un exemple pour ensuite savoir vers qui tu te tournes pour apprendre, et puis ensuite pour toi-même apprendre. En l'occurrence, je vais faire de la pub tant qu'on y est, mais ça fait partie des choses où depuis un an, sur les ateliers qu'on a le samedi, je ne fais plus de présentation. C'est fini, je n'en fais plus. Je ne fais que des ateliers où c'est voilà, tel point technique sur la façon de travailler. Donc, ok, comme c'est les ateliers KDE, on le fait sur base de QT, parce que c'est le truc technique où la plupart des gens qui viennent là, c'est ça qui les intéresse. Mais le fond, tu le reprends, tu le réutilises sur du Python ou sur autre chose, on s'en fout, quoi. C'est pas la technologie qu'on utilise au moment où on fait l'atelier. Ce qui est intéressant, c'est le fond de la pratique qu'on est en train d'apprendre. Et ça fait un an sur les ateliers, c'est uniquement comme ça. Moi, j'ai déjà des contributeurs dans la communauté KDE. La façon dont ils font les contributions, dont ils interagissent avec les autres, etc., c'est plus la même. Ça a changé. Parce qu'ils étaient sur Toulouse, ils sont venus sur les ateliers, simplement parce que voilà, j'ai proposé des trucs comme ça. Ils font « Ah oui, tiens, c'est pas mal. » Et puis, ils essayent une ou deux fois. Les premières fois, ils s'y cassent un peu les dents, tout ça. Et puis, tu leur dis « Non, mais t'inquiète pas, vas-y, essaye une fois de plus. » Et puis, à un moment donné, « Ah bah oui, tiens, ça passe. » Et puis, c'est plaisant. Et puis, ils en parlent aux autres autour d'eux, tu vois, et ils leur proposent la même chose parce qu'ils voient bien l'intérêt et que, du coup, justement, ça leur permet de se concentrer plus sur faire des nouvelles fonctionnalités, etc. Et le reste, ils ont assuré le steak, ils savent que ça va bien marcher. Moi, j'y vois un impact, quoi, clairement. Clairement. Après, oui, ça nécessite des efforts. Ça, initialement, ça nécessite. Pendant que le micro transite, pour donner vraiment un exemple concret par rapport à ça, on a une présentation dans la Track Academy FR cet après-midi qui est faite par un des contributeurs. Il y a un an et demi, jamais je l'aurais imaginé faire une présentation sur ce sujet-là. On a un sujet sur les tests, jamais je l'aurais vu, j'aurais vu faire ça. Et maintenant, tout ce qu'il fait, il teste d'abord. Il fait partie de ce genre de petites choses, tu vois, qui changent, et il trouve ça plaisant. Oui.
Oui, donc là, ce que tu viens de dire, là, c'est... Enfin, j'y pensais plus tout à l'heure. Je pense que c'est un ensemble... Enfin, cette culture de l'artisanat, de la fierté du travail réalisé, etc., de façon à la rependre, il faut... Enfin, une façon de le faire, c'est dans les projets, des projets concrets. C'est-à-dire, là, tu parles, voilà, KDE, etc. Si on continue avec l'analogie de l'artisanat, il y a beaucoup de bricoleurs du dimanche qui font de la plomberie à la maison, qui font de la peinture, etc. Et bon, ils vont satisfaire leurs besoins et c'est tout. Si on avait, je sais pas, une maison commune où tout le monde venait faire du bricolage, c'est sûr qu'il y aurait des tensions. Sauf s'il y a un artisan qui est là pour...
Qui n'est pas là forcément pour contrôler, mais ça donne un idéal, ça donne une direction.
Voilà, bah, donner des directives, donner des principes, donner des... mais au sein d'un projet. Sinon, ça reste trop abstrait. Bah, je pense que tu connais, tu as parlé du Craftsmanship Manifesto. Il y a aussi pas mal de bouquins qui sortent de la maison des Pragmatic Programmers. Mm-hmm. Tu dois connaître ça. Donc, oui. Voilà, là, il y a des principes qui sont très intéressants. Beaucoup d'analogies, pas seulement avec l'artisanat, mais avec d'autres métiers techniques, les infirmières dans les hôpitaux. Après, il y a le côté professionnel. Un autre problème, même si c'est du libre, dans le milieu professionnel, c'est que quand un programmeur devient un peu bon, il est promu, donc il ne programme plus. Donc il y a toute cette expertise-là qui se perd aussi.
C'est beaucoup en France.
C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais bon, enfin, dans tous les milieux, c'est
moins prégnant, mais...
C'est le principe de Peter, c'est-à-dire qu'on va promouvoir les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent incompétents, donc du coup, les hiérarchies et convergent vers des états d'incompétence à tous les niveaux. Et on en est un peu là, c'est-à-dire que, donc, il faut... côté professionnel, on peut essayer effectivement de garantir ça, qu'il y ait un peu des référents qui accueillent les débutants, etc. Mais dans le livre plus collaboratif, dans le temps libre des gens, etc., si ça ne se fait pas au sein des projets, c'est difficile de reprendre cette culture-là.
Tout à fait.
Je vais vous souhaiter bon appétit.
Ah,
si vous désirez vous nourrir de débats informatiques, vous avez une demi-heure jusqu'à la prochaine conférence. Je vous laisse toute la salle à votre disposition.
Non, merci Kevin pour cette présentation. Il me semble que l'artisanat, c'est au-delà de chercher à la qualité, c'est surtout qu'on a une nouvelle étape à franchir. Je crois que le logiciel libre s'est fondé en réaction face à un modèle propriétaire. Et quand on se fonde sur une réaction, ça satisfait un besoin primaire, mais c'est pas tout comme la personne qui fait un logiciel pour son propre besoin. On rate son réel objectif parce qu'on le masque par une construction qui est un opposé. Et face aux sociétés qui font des logiciels privateurs, qui mettaient souvent en avant une culture individuelle, on a l'impression que Steve Jobs a fabriqué lui-même l'iPhone en le soudant dans son garage, on sait que c'est faux, où on a une entreprise représentée par son dirigeant, son actionnaire, et on a voulu faire un modèle opposé en mettant une communauté en avant. Là où on se trompe, c'est qu'on en vient à avoir honte de l'individu, et là on fait une erreur. Ce qui est intéressant dans la communauté, c'est la collaboration et le partage. C'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut revenir à ce modèle d'artisan qui permet de dire, il y a de la communauté, il y a du partage, mais ça n'empêche pas d'avoir la fierté et la reconnaissance individuelle du travail. Et en faisant ce modèle, même si on sait que quand on prime un individu, il a appris d'autres, tout comme un artisan, à un moment, il doit remercier les maîtres avec qui il a appris, les personnes qui l'ont expliqué. Un individu n'a jamais rien fait tout seul, il en doit toujours à d'autres. Et au sein d'un logiciel, au sein d'une communauté, mettre en avant l'individu, c'est donner de la fierté, de la motivation, et c'est donner à tout le monde un exemple à suivre. Et je crois qu'il ne faut pas opposer individu et communauté, il faut essayer de faire l'individu dans la communauté. Ça me semble relativement important, c'est pas des héros qui écrasent les autres, mais c'est une communauté avec des gens qu'on met en avant et qui tournent, ça ne doit pas toujours être les mêmes. Et c'est le danger que tu pointais sur la partie FSF Award.
Il ne faut pas
que ça devienne un club d'amis, d'entretien des bonnes relations et de jeu d'influence. Il faut réellement que ce soit repérer le talent et qu'on puisse, au coin de votre rue, dire « voilà le meilleur pâtissier », voilà le meilleur charpentier. C'est ça qui me semble important. Et on a un petit problème, je pense, de relation à l'individu. On a l'impression que c'est mal de mettre quelqu'un en avant. Je pense qu'on a un petit effort à faire encore, à franchir là-dessus, pour mettre en avant en tant que modèle et non pas juste pour glorifier au détriment des autres.
Effectivement, comme tu dis, après, il y a le pendant où on peut tomber dans l'extrême inverse avec l'histoire du héros. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les FSF Awards. Il y a vraiment le terme de héros, quoi. Ils cherchent les héros du Free Software. Donc là, quand tu as quelqu'un donc tu le mets sur un piédestal comme un héros, c'est une statue, d'accord, il écrase tout autour de lui, c'est pas la même chose, ça donne un côté inatteignable au lieu de dire, voilà, cette personne-là fait des choses bien, et du coup on peut s'en inspirer, et on peut se rapprocher, il est accessible, et on peut apprendre de lui, il peut apprendre de nous. Enfin, c'est pas du tout la même dynamique que ça crée. Ben, je vous remercie, et puis bon appétit.